Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon pour moi.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Il est 6h avant minuit, nous sommes le jeudi 5 février 2026 et vous écoutez la quotidienne d'info locale de Syllab. Quelle belle idée! Deux places pour la Rennes Boxing Night, toujours en jeu, le gala de boxe anglaise du Cercle Paul Bert de Rennes. C'est le samedi 14 février à 19h à la salle Colette Besson, si vous avez envie de faire un cadeau de Saint-Valentin original, essayer de gagner des places. Mot de passe pour gagner à rentrer sur notre site. Pressing, une technique de combat pour perturber l'activité adverse et prendre le dessus pour jouer et pour peut-être gagner. Rendez-vous sur c-lab.fr. Tout de suite, le flash de Lola.
Les négociations d'Abu Dhabi portent leurs fruits. En pourparlers aux Émirats Arabes Unis, les deux puissances ont annoncé reprendre le dialogue au niveau militaire. Première avancée concrète depuis le mois d'octobre, un échange de 157 prisonniers de guerre de chaque camp entre la Russie et l'Ukraine. Vladimir Poutine l'a lui fait savoir via son ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov. Il est prêt à un appel d'Emmanuel Macron. La question du partage des territoires entre Moscou et Kiev reste, elle, en suspens. En attendant Poutine, Volodymyr Zelensky parlait hier à la télé française et Naomi et Maxence étaient plantés devant leur poste de télé et se sont alors posé une question. Pourquoi Zelensky continue de s'adresser directement aux citoyens européens et pas seulement aux chefs d'État et aux diplomates? Le président ukrainien est intervenu hier soir aux 20h de France 2, une prise de parole assez forte, surtout à un moment où la guerre en Ukraine dure depuis plusieurs années et où on a parfois l'impression qu'on en parle un peu moins. Naomi et Maxence, vous nous débroussaillez un peu tout ça.
Une intervention rare de la part du président Zelensky qui rappelle une chose simple mais importante, la guerre est toujours là. Sur le terrain, la situation reste très compliquée. Les combats continuent, les villes sont toujours menacées et l'Ukraine dépend largement de l'aide de ses alliés occidentaux. Lors de son intervention, celui-ci insiste beaucoup sur le fait de ne pas détourner le regard. Pour lui, le danger, c'est que les gens se lassent, se disent que ça dure trop longtemps ou que ça ne les concerne plus vraiment.
On a également eu des chiffres marquants de la part du président ukrainien. Il dit, je cite, « Dans notre pays, officiellement, le nombre de soldats tués sur le champ de bataille, que ce soit des militaires de carrière ou des mobilisés, c'est 55 000. » 55 000 donc, un chiffre sur lequel il a insisté puisqu'il a aussi souligné que la Russie profite du froid pour mettre encore plus de pression sur la population.
Cette prise de parole arrive aussi dans un contexte où en Europe, le soutien à l'Ukraine est de plus en plus discuté. Selon le site Toute l'Europe, en octobre 2025, la France avait dépensé un total de 7,56 milliards, dont 5,96 milliards d'aides militaires, 80 millions d'aides financières et 80 millions d'aides humanitaires.
Entre les difficultés économiques, la durée du conflit et une certaine fatigue générale, l'aide à l'Ukraine ne va plus forcément de soi selon certains Français. En effet, selon un sondage Ipsos, 34% des Français seraient opposés à une poursuite de l'aide à l'Ukraine. Mais bon, tout le monde n'est pas contre non plus, puisque 66% des Français estiment que le soutien financier devrait continuer. Mais d'ailleurs, est-ce que cela aurait un rapport avec l'arrivée au pouvoir du président Trump aux États-Unis ?
Eh bien, tout à fait. Depuis son investiture à la Maison-Blanche début 2025, on peut dire que les aides ont stoppé net. Écoutez ça, en 2026, alors que l'UE va débloquer 90 milliards d'euros, les États-Unis, eux, n'ont prévu de distribuer environ que 400 millions d'euros. Une aide bien petite pour un si grand pays.
Et c'est pourquoi, en parlant directement aux citoyens, Zelensky cherche donc à rappeler pourquoi ce soutien reste essentiel. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de financer des armes ou de prendre des décisions politiques, il s'agit de maintenir une mobilisation globale pour que la guerre en Ukraine ne devienne pas juste une crise parmi d'autres.
Merci Naomi et Maxence. Désormais, on part en Afrique où les djihadistes déstabilisent le Nigeria. Hier, le président Bola Tinubu a ordonné le déploiement de l'armée dans le centre-ouest du pays. L'opération Savannah Shield a pour but, je cite, de mettre hors d'état de nuire les terroristes et de protéger les communautés sans défense. Mardi, 162 personnes y ont été massacrées dans le village de Woro. Le chef d'état accuse le groupe djihadiste Boko Haram d'en être responsable. Pays le plus peuplé d'Afrique et premier producteur de pétrole du continent, le Nigeria fait face à une insurrection djihadiste depuis 2009. Elle est menée par Boko Haram et son rival, l'État islamique. Adèle Van Riet quitte la direction de France Inter. En poste depuis 2022, la directrice de la radio publique la plus écoutée en France sera remplacée dès le mois de mars. C'est Céline Pigalle, actuelle directrice du réseau ICI, qui prendra la suite. Ce départ est annoncé en pleine commission d'enquête parlementaire sur le financement et la neutralité du service public. Mais Radio France l'affirme, cette décision intervient dans le cadre d'une réorganisation à l'approche de la présidentielle de 2027. Énième tête de liste pour une gauche fracturée, le député socialiste de l'Essonne, Jérôme Guedje, a annoncé aujourd'hui sa candidature au présidentiel 2027. L'élu souhaite, je cite, « porter la voix d'une gauche républicaine, européenne, universaliste, laïque, sociale et écologiste ». Auparavant fervent défenseur de la NUPES en 2022, il est depuis en rupture avec ses alliés, notamment avec les Insoumis. Sa stratégie, séduire au-delà de la gauche, comme d'autres personnalités du PS, Jérôme Guedje estime notamment que Jean-Luc Mélenchon, passé très proche de la qualification en 2022, ne pourrait pas rassembler suffisamment de voix au second tour de la présidentielle. On rentre à Rennes où du 15 janvier au 17 février a lieu la 11e édition du festival de musique contemporaine Autre Mesure. Nous sommes allés assister à un des concerts samedi dernier pour le reportage qui suit.
Allons à la MJC de Bréquigny. Ce soir-là, l'artiste de jazz britannique Alabaster de Plume performe dans le cadre du festival Autre Mesure. On a pu recueillir l'avis du public.
Je l'ai avec papa et maman.
J'ai trouvé ça hyper planant, hyper psyché et très comme un petit tunnel qui t'emporte.
Je me sens un peu dans ma bulle et du coup chouette, il créait un truc hyper intéressant et le son était hyper cool aussi je trouve.
On a eu la chance de pouvoir nous entretenir également avec Margot, bénévole à la MJC.
Je trouve ça super qu'il y ait des MJC qui accueillent des festivals et des concerts parce que c'est des équipements de quartier qui sont implantés en dehors des centres-villes et qui permettent à tout type de gens d'aller à des concerts, notamment des gens qui fréquentent la maison pour d'autres activités, des enfants, des personnes du quartier et qui peuvent venir découvrir de la musique avec souvent des prix, des tarifs avantageux.
La MJC de Bréquigny est un des 12 lieux investis par le Festival de musique contemporaine Autre Mesure.
Il faut y aller parce que c'est un festival qui a quand même la caractéristique de proposer plein de choses qu'on ne voit pas au quotidien ou qui ne sont pas forcément représentées dans les salles où on a l'habitude d'aller au concert, parce que du coup ils exploitent aussi des lieux différents. C'est du spectacle, c'est du vivant, c'est là que ça se passe.
Et ça se passera avec vous, si vous le voulez, samedi 7 à 15h et 16h au Musée des Beaux-Arts, où ont lieu le concert de Ryan Kernoa et celui de Noémie Boutin. Allez-y, c'est gratuit. Mais aussi mardi 17 février à 20h30 au TNB pour un tribute d'hommage à David Lynch par Olivier Mélano. La billetterie est à retrouver sur le site autremesure.com ou le site du TNB.
Deux jeunes en trottinette ont percuté un fourgon de police hier vers 14h30 aux environs de la gare de Rennes. Les ados roulaient sans casque et à 100 km/h quand ils ont percuté un fourgon de la police à l'arrêt à un feu rouge. Sur le même véhicule, le conducteur de 19 ans et le passager de 17 ans ont été gravement blessés et tout de suite pris en charge par les secours. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Selon le code de la route, rouler à deux sur une trottinette est une infraction et augmente les risques d'accident. Selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, on dénombre aujourd'hui en France 80 morts à la suite d'accidents en trottinette électrique, soit 35 accidents de plus qu'en 2024. Et puis, le plus important maintenant, on fête nos 30 ans ce week-end, 30 ans de joyeux service au programme, une édition 6 heures avant minuit spéciale, minutieusement concoctée par la rédac. Mais pas que, on vous propose des anecdotes de bénévoles historiques de la radio, mais aussi des chroniques surprises. On vous attend également nombreuses et nombreux au bistrot de la cité pour une soirée d'anniversaire de 19h à minuit 30, entrée prix libre. Il y aura des DJ sets made in C-Lab, parce que oui, nos bénévoles ont du talent. Alors c'est on vrai. Vous attend pour fêter ça toutes et tous ensemble.
Et oui, merci Lola de finir ton flash sur cette actualité capitale. Rendez-vous du coup samedi pour 30 heures de diffusion spéciale. Merci Lola pour ton flash.
De rien.
Et vendredi même. Et oui,
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
C-Lab.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Et on reste avec toi Lola pour l'interview de ce soir.
Et aujourd'hui, on est en compagnie de Emmanuel Van Hache et Patrice Pituber, tous les deux vêtus de lunettes, l'un autour du cou et l'autre sur le bout du nez. Alors, vous êtes gérant, gérante et fondatrice du Naya Museum à Rochefort-en-Terre. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez tous les deux nous annoncer le lancement de la 12e saison du musée et galerie d'art de l'imaginaire. Mais pour expliquer un peu à nos auditeuristes ce que c'est l'art de l'imaginaire pour le musée Naya. Ce sont des œuvres nourries par le fantastique, le fantasy, le visionnaire et la science-fiction, mais aussi par d'autres thèmes artistiques relatifs à la fiction et considérés comme alternatifs. Le musée Naya, il a été fondé par vous en 2015 avec près de 300 œuvres et plus de 100 artistes contemporains et internationaux. Il est le seul musée d'Europe à exposer essentiellement ce genre artistique, de quoi rassasier les 25 000 visiteurs annuels amateurs d'imaginaire en tout genre. Le Naya Museum, il rouvre ses portes après un mois de fermeture et il revient pour cette 12e édition ce mois-ci, samedi 7 février, pour accueillir à nouveau ses visiteurs. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période de fermeture en coulisses ?
Alors tous les ans, on ferme le musée pendant un mois. En général, c'était sur les autres années, c'était au mois de mars. Et là, il s'est avéré, bon voilà, qu'on le fait au mois de janvier. Et donc là, on remanie le musée. Ça nous permet de pas s'endormir et de réintégrer justement des nouveaux artistes. Là, on présente 6 nouveaux artistes et on doit être à peu près une centaine d'artistes en tout, quoi. Et donc on dépoussière le musée, on fait les aménagements. Donc on a ouvert il y a maintenant, c'est la 12e année, et donc tous les ans on le refait évoluer en restant sur la même thématique et vraiment en apportant d'autres choses, quoi.
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le Naya Museum, comment présenteriez-vous ce lieu unique dédié aux arts de l'imaginaire, peut-être Emmanuel ?
Oui, alors c'est un musée d'art qui va présenter des œuvres contemporaines d'artistes qui sont encore vivants, pour la majorité. Et dans leur travail, chaque artiste va explorer le monde qui l'entoure en lui donnant une dimension légèrement en décalage avec la réalité, soit par le biais de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique ou même du visionnaire, donc tous les côtés psychédéliques de la vie ou alors les mondes cachés, invisibles et autres. Et le but, c'est vraiment de questionner notre état d'être humain, le pourquoi, comment, pourquoi pas, etc.
Un bel univers.
Oui.
donc vous revenez en force avec de nouvelles expositions et vous nous l'avez dit avec 6 nouveaux artistes, un casting 100% français. Comment et pourquoi avez-vous sélectionné ces artistes ?
Alors c'est vraiment le fruit de toute une année. Il s'avère que là, en majorité, ça va être des femmes qui sont exposées. Et donc pour la première artiste, par exemple, qu'on a sélectionnée, l'année dernière, nous étions en Inde, en voyage, et là, dans un parc, quelque chose d'un peu improbable, on discutait avec un couple, et il s'avère qu'au bout d'une demi-heure, on leur dit, voilà, on tient un musée, ils nous disent, mais c'est le Naya Museum. On leur dit, oui, elle me dit, ah, tu es Pituber. Elle me dit, mais en fait, on se connaît de Nancy. Elle me dit, j'avais déjà envoyé un dossier, justement, pour exposer chez vous. Et il s'avère qu'elle me remonte son travail. Et je lui dis, bah, écoute, il n'y a pas de problème, prochaine saison, t'es exposé avec nous, ton travail est magnifique, quoi. Et c'est tout un travail elle collecte des objets un petit peu partout dans le monde. Et elle va refaire des sculptures avec tous ces objets, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une pérégrination tout au long de l'année.
Voilà, après, on a des artistes comme Renaud Robin, par exemple, qui va travailler le bois en utilisant vraiment la matière comme fil conducteur, c'est-à-dire qu'en fonction de la fibre du bois, la manière dont elle est construite, sa sculpture va prendre forme. Voilà, il travaille des spirales dans le bois, il travaille vraiment des choses très... très fantastique pour le coup, on a l'impression d'avoir des plantes carnivores ou voilà, des choses un peu étranges. On a une autre jeune artiste, c'est Esther, qui elle travaille aussi le bois, mais à la tronçonneuse. Et elle sort des corps de femmes portant des villages sur leur dos ou sur leur tête, qui sont assez flamboyantes, qui sont assez... elles sont belles, elles sont fortes, elles sont sur des montagnes, le tout dans un tronc d'arbre. C'est assez magique. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme artiste ?
On a Agnès Fodor aussi, ah oui. Une artiste d'origine hongroise qui vit sur Morlaix. C'est vrai que principalement, je pense qu'on a beaucoup d'artistes bretons. On doit avoir 4 artistes bretons, je pense, sur cette sélection cette année. Et Agnès est céramiste et d'origine hongroise et qui va faire des personnages. Elle est dans le grotesque et dans un côté très kitsch. Alors, on aime bien le dark, nous aussi, au Naya Museum, mais on aime donner ce côté lumineux et humoristique. Nous, ça fait partie de notre ADN, quoi.
Et qu'est-ce qu'ils apportent, justement, ces univers-là, de ces nouveaux artistes au musée ?
Alors, je pense qu'il va y avoir une dimension peut-être un petit peu plus poétique que dark, hein, même s'il y a de la poésie dans les univers dark, mais là on est dans quelque chose d'un petit peu plus acidulé et un petit peu plus poétique, acidulé dans l'humour qui va être injecté dans les œuvres qui sont présentées, ou même dans les couleurs, hein, comme par exemple Agnès Fodor, elle va travailler dans des tons beige, rose, un rose bonbon ou du doré, mais avec ces personnages qui sont difformes, qui sont qui sont vivants en fait, et voilà, je pense que c'est cette dimension là qui est nouvelle avec ces artistes là.
Mais on n'oublie pas les artistes qui sont déjà exposés au Naya Museum, mais est-ce qu'ils proposeront également des œuvres inédites cette saison?
Oui, on a plusieurs changements avec des artistes avec lesquels on travaille depuis maintenant 12 ans. Donc notamment, on va avoir des nouvelles œuvres de Pascal Ferry, qui est un peintre visionnaire qui est installé sur Carnac. On a aussi des œuvres...
De Tim Rosen.
Tim Rosen.
Donc c'est un sculpteur sur métal belge, qui est dans le Limbourg, hein, en Belgique.
Et spécialisé dans les bustes métalliques. Et c'est vrai qu'avec lui, on a beaucoup de renouvellement. En plus, nous sommes un musée-galerie. Donc il nous arrive de vendre des œuvres. Et notamment, celle de Tim était partie sur... chez un collectionneur, et puis là pour la nouvelle saison, il nous aurait à Charland une nouvelle pièce. On a qui d'autre autrement de nouvelles pièces?
Non, après c'est les nouveaux artistes, oui. Là j'ai pas la liste devant les yeux, du coup c'est pas...
Il y a toujours beaucoup, ouais, en
mais
plus.
Oui, il y a plein de choses.
On garde le secret et le mystère un peu pour
Andrea Bayardo.
Andrea Bayardo.
Andrea Bayardo, c'est un peu notre chouchou, entre guillemets. C'est l'artiste qui a fait le dessin qui est le visuel du Naya Museum en noir et blanc. Il est tatoueur italien. Il vit dans la région de Carrare. Et voilà, et cette année, donc, on a un nouveau dessin qui intègre la galerie, et en plus on retravaille toute l'image graphique du musée, et donc on a un nouveau dessin de lui qui va nous servir de support de communication.
Et donc un nouveau logo dessiné spécialement par Andrea. Voilà.
Alors l'imaginaire, il est au cœur de votre démarche. Vous dites que l'art imaginaire permet de s'évader du réel. Pourquoi il est, selon vous, si essentiel dans notre société contemporaine aujourd'hui?
Alors, il va être essentiel pour plusieurs choses. Pour le fait de s'évader, justement, c'est-à-dire d'aller faire un tour, on va dire, dans un monde qu'on pourrait construire soi-même. Mais en même temps, ça nous permet aussi d'explorer les potentialités de notre monde, juste en poussant quelques curseurs pour voir où certains sujets, certaines directions, certaines voilà, certains sujets d'actualité pourraient nous mener.
Des prospectives, ouais,
des prospectives et des, sur le monde.
Et de proposer justement une autre réalité. C'est important pour s'extirper de la nôtre, en fait, qui est d'autres possibles, en fait, quoi.
En fait, pour nous, l'imaginaire est une faculté qui est vraiment intrinsèque à l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain ne peut pas vivre sans l'imaginaire, puisque c'est ce qui lui permet de se projeter pour pouvoir se mettre en action. Donc, on a besoin de se réapproprier l'imaginaire pour pouvoir construire le monde de demain. On n'a pas le choix. Ce qui fait que beaucoup de gens, on a beaucoup de visiteurs au musée qui disent « Ah, mais moi, j'ai pas autant d'imagination. » Et à chaque fois, je leur dis « vous ne vous rendez pas compte à quel point vous utilisez en permanence votre imaginaire. » Juste le fait de pouvoir se projeter sur des futures vacances ou une future maison ou une future famille ou un futur mariage, tout ça, c'est de l'imaginaire. Et c'est ce qui permet aux gens de passer à l'action. Et donc, au musée, on explore différentes directions qui ne sont pas toujours positives, mais qui permettent aux gens de se positionner et donc de se dire, effectivement, cette direction-là ne me plaît pas. Donc, moi, je vais reconstruire à travers mon imaginaire une projection qui me correspond mieux.
Le musée, il défend une programmation indépendante et audacieuse. C'est vous qui le dites. En quoi cette indépendance, elle est importante pour vous ?
Elle s'inscrit dans un schéma qui est une vision de l'art, en fait, qu'on peut avoir ici, en France, en Europe, et qui peut être basée sur le consumérisme, sur le profit. Et nous, en fait, on veut défendre toute une pratique d'artistes, justement, qui font les choses par honnêteté, en fait, et qui travaillent eux-mêmes la matière et qui vont mettre un peu leur âme et au détriment, justement, d'une vie qui pourrait être matériellement plus confortable pour vraiment s'adosser à leur création. Et il y a très peu de lieux, au final, en France, où on a accès à aller voir ces œuvres-là.
C'est vrai.
Et c'est souvent des initiatives d'autres artistes, en fait, qui vont monter des expositions pour ce type d'art, quoi.
C'est vrai qu'on est en France, en Europe, pour plein de raisons politiques et autres, baigné dans du conceptualisme. Donc c'est vrai que souvent, les artistes s'arrêtent au concept et vont peu aller au-devant de la matière. Sauf que la réalité, elle va vraiment prendre forme une fois que les artistes vont confronter leurs idées, leur imaginaire, à la matière qui, elle, va résister, va pas se laisser faire. Et là, ils vont devoir s'adapter, ils vont devoir migrer, changer, bouger. Et c'est ça qui nous intéresse. Enfin, nous, on estime que, comme je le disais tout à l'heure, un artiste qui travaille le bois et qui va devoir étudier la manière dont la fibre est intégrée au bois, va modifier son idée de base et va donner un résultat différent à la fin. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est des artistes qui vont projeter leurs émotions, le monde qui les entoure, leur vision du monde dans leurs œuvres.
C'est vraiment ça, ouais, je pense. Le cœur de la chose, c'est l'émotion. C'est la transmission d'émotions, en fait, quoi. Et le public en est réceptif aussi. Il se dit... Bah tiens, en fait, j'ai l'impression de ressentir l'intention qu'a voulu y mettre l'artiste. Et donc, il n'y a pas de notion souvent de bien ou de mal, mais simplement de transmission, quoi.
Pour conclure sur votre site, vous proposez donc des visites libres, guidées, mais aussi des expériences ludiques. En quoi ça consiste justement ce pôle ludique du musée Naya ?
Alors, il y a deux choses. Il y a un jeu qui dure en moyenne 1h30-2h, hein, qui est un jeu d'escape game. C'est un gros casse-tête, une grosse boîte qu'il faut ouvrir pour sortir un message. Et pour résoudre les énigmes de ce jeu, il faut faire des allers-retours dans le musée, observer les œuvres, le nom des artistes, le bâtiment, les relations comparées des œuvres entre elles, etc. Ce qui permet aux gens, à travers un jeu, d'aller un peu plus en profondeur dans les œuvres qui sont présentées. Ils passent 2 heures dans le musée. Quand ils ressortent, ils nous disent « Effectivement, ça fait 3 fois que je passe devant, mais je n'avais pas vu cette œuvre-là. » Donc voilà, ça permet d'aller un peu plus loin. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la crypte de Naya. C'est un carnet de jeu avec une énigme à résoudre dans chaque salle. Là, c'est plus pour un public familial. Ça permet d'accompagner des plus jeunes ou simplement des joueurs, hein, dans la visite du musée et d'y prendre un peu plus de temps que juste traverser les salles, prendre, on va dire, la température ambiante et puis ressortir.
Et c'est vrai que la notion du ludique pour nous aussi était importante parce que l'art qu'on présente aussi à cette dimension-là,
oui.
Une dimension ludique et justement désacralisante. Et par le jeu, justement, on désacralise un peu les choses. Et en plus, on a un public quand même geek qui peut être soit du métal, de l'univers du métal. Et les geeks aussi sont très présents chez nous.
Oui, puis malgré tout, le jeu, c'est ce qui permet d'apprendre. Enfin, on le voit dans la nature, on apprend en jouant, en fait.
Eh bien, merci d'avoir été avec nous, Emmanuel Van Hache et Patrice Pitt-Hubert. Je le rappelle, vous êtes fondatrice et gérante du musée et galerie d'art de l'imaginaire à Rochefort-en-Terre. On vous souhaite une bonne ouverture de saison. Pour y être au rendez-vous, je le rappelle à nos auditrices que le musée ouvre ses portes ce samedi 7 février. Il est ouvert tous les jours de la semaine de 11h. À 18h. Comptez 7 euros pour une entrée plein tarif, 6 euros pour une entrée à tarif réduit, 4 euros pour les 8-10 ans et c'est gratuit pour les moins de 8 ans. De quoi vous évader le temps d'une visite.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
6h avant minuit.
6h avant minuit.
On passe à la chronique et c'est l'heure de l'agenda culturel avec Julien ce soir. À toi, Julien.
Bonjour à toutes et à tous.
Salut.
Salut. Il y a vraiment pas mal d'événements intéressants à aller voir ce week-end. Je ne sais pas s'il y en a autour de la table, pardon, qui sont férus de lecture.
Ah bah ouais, carrément. Moi, je lis tous les jours.
Oui, moi aussi. Pour celles et ceux que ça intéresse, les Champs Libres accueillent cette année, du 6 au 8 février, la 6e édition du Festival de littérature Jardin d'hiver, la littérature librement. Cela regroupe tous les genres de lecture possibles, des essais aux romans en passant par les bandes dessinées. Il y en a pour tous les goûts. Il y aura également, durant ces 3 jours, des moments de rencontre et d'échange avec les auteurs autour de l'histoire et de la création de leurs œuvres. Il y aura notamment l'écrivaine Jakuta Ali Kavazovic pour parler de son dernier livre, Au grand jamais. L'écrivaine Natacha Apana pour son livre Le ciel qui tombe, ou encore la dessinatrice Mansouré Kamari, qui raconte son enfance compliquée avec son père, violon, ainsi que les sévices et traumatismes qu'elle a subis. N'hésitez pas donc à aller y faire un tour, en famille ou entre amis. Cela promet d'être un moment de partage intense et surtout convivial. Et en plus, c'est gratuit. Ce soir a lieu la soirée Reine de la Nuit au Diapason. Le thème de cette soirée s'intitule « Tremplin Rock'n'Solex ». Il y aura 4 groupes qui vont s'affronter. Et vous pourrez voter pour le gagnant. Celui-ci participera au festival Rock'n'Solex qui aura lieu du 6 au 10 mai prochain. Il y aura également un concours de danse auquel vous pourrez également voter pour le gagnant. L'entrée est gratuite, on vous y attend, nombreuses et nombreux. Côté sport, le Stade Rennais se déplace à Lens ce samedi à 17h pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. L'occasion pour les Rouges et Noirs de se relancer en allant chercher les 3 points et de nous rassurer, quand même un peu. Enfin, le festival de cinéma Travelling est de retour à partir de la semaine prochaine à Rennes. La ville de Los Angeles sera mise à l'honneur cette année au travers de concerts, de projections, de films et d'expositions. Donc, n'hésitez pas à venir y faire un tour.
Bah oui, merci beaucoup Julien. Et puis nous, on y sera aussi à Travelling pour un plateau spécial le mercredi 11 février, la semaine prochaine.
Oui, ça va arriver à grands pas.
Ouais, merci à toi, à la prochaine.
À la prochaine, bonne soirée.
Je pense qu'on a un message sur le répondeur, on va l'écouter.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
Célab, la radio sauvage.
Salut à toute la team de Célab. Alors, je vous appelle parce que j'ai une petite proposition d'un sujet qui a l'air très intéressant et qui m'a en même temps un peu révolté. C'est un événement qui s'appelle les NNZ Games. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce, j'en suis navré. Ça s'écrit en tout cas E-N-H-A-N-C-E-D. Et c'est prévu pour, en fait, mai 2026 à Las Vegas. Et c'était donc... prévu de faire en fait des Jeux Olympiques spéciales pour les sportifs qui se dopent, voilà, qui prennent des dogs, des trucs pour se doper et qui du coup en fait doivent faire des font ça pour battre des records du monde et donc en fait c'est même conseillé de prendre du dopage. Ça m'a fait halluciner et du coup c'est assez hallucinant. Et en même temps révoltant en fait d'encourager en fait des sportifs à devoir consommer des stéroïdes et autres saloperies en fait donc pour juste ça. Donc voilà, c'est une petite proposition, donc je sais pas du tout si ça va vous intéresser ou non, mais en tout cas je tenais à vous proposer ça donc du coup et puis à vous dire à toute l'équipe bah bravo pour tout ce que vous faites, c'est super agréable de vous écouter, que ce soit les flashs, interviews et tout ça. Donc je vous souhaite une belle émission et une bonne continuation, merci encore et à bientôt.
Mais merci beaucoup, cher auditeur. Quelle belle idée. On va se pencher sur la question, peut-être pour un papier. Ça te fait réagir, Julien ?
C'est original.
Ah ouais, c'est horrible. C'est un peu problématique.
Ouais,
Je pense qu'on va se pencher sur la question. Merci beaucoup, cher auditeur. Et si je peux me permettre, je trouve que vous avez une magnifique voix. Faites comme notre auditeur, laissez-nous un message pour nous proposer des idées de sujets ou faire des retours sur notre émission. Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Vous pouvez aussi, ces derniers temps, nous laisser un message pour nous dire bon anniversaire. Hein, si la fête, c'est 30 ans samedi, donc vous avez encore quelques jours pour laisser un petit message. T'as laissé un message, Julien ?
Pas encore,
hein ?
Non, pas encore, mais pour dire de continuer comme ça, parce que la radio est super et vous faites la personne a dit un super boulot.
Merci.
Donc continuez comme ça.
C'est prévu. Et on espère te voir aussi de nouveau bientôt dans 6 heures avant minuit.
J'espère. J'espère à bientôt.
Et à la prochaine. Merci Laura pour la technique. Et puis nous, on se retrouve vendredi soir dès 18h. C'est ça, Timothée ? Yes, dès 18h pour les 30 heures de diffusion spéciale pour les 30 ans. Et ça continuera toute la soirée du vendredi, toute la journée du samedi, jusqu'au soir avec soirée au bistrot de la cité dès 19h avec des DJ sets de nos bénévoles. Donc on aura... un blind test aussi avant les DJ sets pour un peu chauffer la salle. Alors on aura Jean des Voix du Monde pour commencer. Ensuite on aura Dan de Sémaphore, Célina de Sonar Session et puis Jeanne, also known as DJ Moguet, si je ne m'abuse. Voilà, tout un programme.
Il y a plein de choses.
Et ouais. C'est prix libre, hein. C'est ça, j'ai les bonnes infos. Ouais, c'est bon, je suis vraiment trop une journaliste. Prix libre, Bistrot de la Cité à partir de 19h samedi soir. Merci tout le monde, à samedi du coup.
Et tout ça pour en venir à quoi ?
Ah si, si.
Radio Campus Rennes.
J-3 avant les 30 ans de la radio Syllabe.
C'est festif.
Si.
La radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure
6h.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.